La semaine dernière, j'étais dans le sud de la France, et puis les églises de la région où j'étais s'étaient retrouvées parce que c'était le dimanche de la Réformation. En fait, tous les derniers dimanches d'octobre, chaque année, il y a cette célébration, tout simplement parce que c'est le dimanche le plus proche du 31 octobre, date à laquelle Luther a publié ses 95 thèses. Il y a maintenant de ça 494 ans. 6 ans, on va fêter les 500 ans. 500 ans. Et je pensais à ça, et puis en plus, j'ai eu le privilège d'aller écouter un pasteur et ami de très longue date, que j'avais plus revu depuis des années, un ami québécois, et qui nous a partagé sur un de ses thèmes favoris, la justification. Et ça m'a touché encore une fois, et j'aimerais qu'on aborde ce sujet ce matin. Vous savez donc que le 31 octobre 1517, Luther a placardé ses 95 thèses contre les indulgences. Vous savez ce que c'était les indulgences ? C'était ce principe dans l'Église catholique qui faisait que lorsque vous aviez péché, vous allez voir le prêtre, et puis vous lui racontez votre péché, et puis moyennant monnaie sonnante et trébuchante, il vous accordait une indulgence. C'est-à-dire que vous étiez excusé, ou même à cette époque-là, ça allait jusqu'au point où on pouvait en acheter en avance. Hein? C'était pratique d'en avoir toujours sur soi, quoi. Hein? Écoutez, j'ai trompé 3 fois ma femme cette semaine, mais j'ai l'intention de la tromper 2 fois la semaine prochaine. Mettez-moi un 10 au cas où. Hein? Alors, je plaisante, mais c'était comme ça que ça se passait, quoi. Et c'était bien sûr pour les gens qui avaient quand même les moyens. Les pauvres y avaient beaucoup moins accès. Et puis donc Luther, en lisant les Écritures, s'est dit, il y a quand même là quelque chose qui m'a pas l'air conforme à ce que la Bible dit. Et c'est de là qu'est partie la réforme et puis tout ce que ça a donné par la suite. Hein. Mais en réfléchissant à ce sujet, je me disais, on rit quand on parle de ça, parce que ça nous paraît tellement gros, hein, aller acheter des indulgences. Puis en tant que protestant évangélique, on peut regarder un peu de haut nos frères catholiques, chez qui ça se passait. Mais quand même, si on regarde un tout petit peu plus près, c'est tellement une façon de penser qui est naturelle au cœur de l'homme que malheureusement, la réforme n'a pas effacé le principe des indulgences. Nous avons beau proclamer dans nos confessions de foi que nous croyons que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le pardon. Hein, dans notre vie, nous pratiquons cette chose-là. Alors, pas auprès des autorités religieuses, et personne n'est venu nous proposer de l'argent pour ça jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà bien. Hein. Mais nous faisons ça avec nous-mêmes. Sous quelle forme ? Ben, lorsque je pêche, et puis que je me dis, ouais, mais de nos jours, tout le monde le fait. Hein. Qu'est-ce que je viens de faire ? De m'accorder une indulgence. Lorsque je fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et que je dis, ouais, d'accord, mais avec toutes les qualités que j'ai, cette petite chose-là... Ouais. C'est ce que je fais. Lorsque je dis oui, effectivement, j'ai ce défaut-là, mais quand je vois les gens dans l'église et dans les églises, il n'y en a pas un qui est mieux que moi. Hein. Qu'est-ce que je fais ? Je m'accorde des indulgences. Alors bien sûr, c'est pas contre de l'argent, c'est pas monnayé par une personne qui vient et qui vous dit, mais c'est exactement le même principe. Hein. Et ça, nous le faisons tout le temps. Hein. Ouais, c'est peut-être un péché, mais ça fait de tort à personne. Indulgence. Et puis, il y a encore une autre façon dans laquelle nous le pratiquons, c'est lorsque j'ai péché, je sais que j'ai fait quelque chose de mal, et au lieu d'immédiatement que je m'en aperçois, dire à Dieu, ben, je te demande pardon, je reste dans ma culpabilité. Hein. Si je me sens mal une journée ou deux, ben, Dieu quand même me pardonnera plus facilement. Hein. Si je me prive un peu de ça, ou si, ah ben, ce matin, je vais pas aller au culte parce qu'il y a toutes les mauvaises pensées que j'ai eues hier, hein, je pourrais pas y aller, je suis pas digne de prier, etc. Je reste chez moi, mais dimanche prochain, je pourrais y aller, ça ira mieux, hein. Ou ce matin, je vais pas lire ma Bible parce que, vu ce que je suis resté à regarder hier soir à la télé, je me sens pas d'ouvrir ma Bible ce matin. Mais quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Exactement la même chose que Luther dénonçait à cette époque. Je m'accorde des indulgences. Alors que ce que l'Évangile proclame, ce que la Bible nous annonce, c'est quelque chose de tellement plus fort. Et pour le comprendre, pour que ce qu'on appelle la doctrine de la justification ait toute sa valeur, toute sa grandeur, toute sa beauté. Il y a quand même une première chose que je dois comprendre, c'est que je suis complètement corrompu. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ce que je fais est mal, et ça ne veut pas dire que tout ce que font les êtres humains est mauvais. Mais ma nature est mauvaise par naissance. Je suis pour rien, je suis né comme ça. Et j'ai noté cette citation que mon ami a dite pendant son message là-dessus. Et il a dit ceci: nous ne sommes pas des gens bien qui de temps en temps faisons des erreurs, nous sommes des êtres corrompus qui de temps en temps, par le miracle de la grâce, accomplissent de bonnes choses. C'est quand même différent. Mais quand vous réfléchissez, je ne sais pas comment c'est, mais honnêtement pour nous, et je ne vais pas demander à personne de l'expliquer aux autres, mais quand on pense à notre salut, dans l'ensemble on se dit, bien sûr j'avais besoin d'être racheté, mais quand même moins que... En me sauvant, Dieu a eu moins de travail qu'en sauvant... Il a quand même fait une bonne affaire avec moi. Parce que quand même, je suis quand même pas si mauvais que ça. J'ai quand même tellement de qualités, j'ai quand même des bons côtés, je suis... Et en faisant ça, je détruis beaucoup de choses. Parce que pour comprendre toute la valeur, non seulement du pardon, mais de la justification... J'ai besoin de réaliser à quel point je suis à des années-lumière de ce que Dieu attend. Le standard de Dieu, la seule chose qui est acceptable pour lui, c'est la sainteté. Et à cette mesure-là, comment je suis ? Ben, je suis loin, très loin, très loin, très loin. Je suis aux antipodes. Même quand je ne fais pas trop mal. Mais en plus, cette tendance naturelle est tellement accentuée par la façon contemporaine de penser, où justement le but de la philosophie ambiante, c'est d'éviter de se sentir coupable. Il ne faut surtout pas se sentir coupable. Ce n'est pas de faire mal qui est mal, c'est de se sentir coupable d'avoir mal fait. Donc, on est influencé par ça. Et dans notre relation avec Dieu... Ça fausse les choses, hein. Ouais, je suis pas parfait, je le sais, ça m'arrive de me mettre en colère, j'ai une petite mauvaise pensée, mais en fait j'ai jamais tué personne, je suis pas un ivrogne, je vole pas la nuit ou le jour, je frappe pas les gens, j'agresse personne, je viole personne, je paie mes impôts, je respecte à peu près les limitations de vitesse, je suis pas complètement pourri quand même, hein. Y en a des plus mauvais que moi. La Bible nous dit que Dieu a voulu par la loi enfermer tous les hommes dans le péché. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il parlait avec ces gens qui pensaient être si bien que ça, il va encore relever la barre. Ah oui, la Bible dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Alors maintenant, moi je vais vous dire, chaque fois qu'un homme regarde une femme et qu'il a une pensée de travers, il a commis l'adultère. Glups. Il n'y a plus un seul homme normalement constitué qui n'a pas commis d'adultère. Chaque fois que vous pensez que votre prochain, donc un autre être humain, est un imbécile, vous avez commis un meurtre. Oups ! Il n'y a plus beaucoup de non-meurtriers dans la salle. Hein, etc., etc. Pourquoi Jésus a fait ça ? Pas pour qu'on se sente mal et qu'on se... Mais pour nous aider à comprendre, vous êtes loin du compte, vous y arriverez jamais, vous y arriverez pas. Arrêtez de vous épuiser à essayer d'être un peu meilleur. Arrêtez de mettre des emplâtres sur une plaie pourrie, ça sert à rien. Il y a autre chose. Aujourd'hui, quand on dit le mot évangile, il n'y a pas grand monde qui pense au sens étymologique du mot, hein. Bonne nouvelle. Ça fait pas trop sauter de joie ce mot quand on l'entend. C'est pas le mot qui, quand les gens entendent dans leur rue, alors là, évangile, non. Hein. Pourquoi ? Ben parce que si j'ai pas compris la mauvaise nouvelle, il n'y a pas de bonne nouvelle. Si finalement on est tous pareils, après tout, on est ni très mauvais ni très bon, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, on est tous gris, bon, il y a des gris foncés et des gris clairs, mais on est quand même tous gris, hein. Et puis donc, ben voilà, Dieu est gentil, cool, il nous aime, et puis on fait ce qu'on veut, puis ça va bien. C'est pas comme ça. Moi, j'aimerais que ce soit comme ça, honnêtement, ça me plairait plus. Hein. C'est beaucoup plus dans mon tempérament, dans mes idées naturelles, ça m'arrangerait que ce soit comme ça. Mais si on veut être honnête, et on doit l'être avec la parole de Dieu, Dieu dit, il n'y a rien de bien chez vous. Mais quand même, quand je... Non. Parce que de toute façon, mais ce n'est même pas votre faute, vous ne pouvez pas bien faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. David l'explique, hein, je suis né dans l'iniquité. Alors, c'est la faute à Adam et Ève, moi je l'ai hérité. Bien sûr, j'y participe allègrement, mais je suis comme ça. Et pour que la bonne nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut que j'ai compris qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Je suis séparé de Dieu, c'est inatteignable, et ma vie, ça ne va pas aller comme ça, quoi. Et c'est là où la bonne nouvelle peut intervenir. Non seulement Dieu paye à notre place, nous pardonne, alors déjà ça serait super, hein, on est pardonné, mais en plus, il nous justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il déclare que chacun d'entre nous est comme lui. Ça, c'est extraordinaire. Si on comprenait juste, enfin pas juste, si on comprenait un petit peu ces réalités-là, on se lèverait le matin, on aurait des ressorts sous les pieds pour aller en parler. Il faudrait nous mettre du scotch gris là, sur la bouche pour pas qu'on crie partout cette chose-là. Notre problème, c'est qu'on ne le comprend pas. Et je parle pour moi. Hein. Et je ne le comprends pas pourquoi. Parce que dès le point de départ, je pense quand même au fond de moi que je ne suis pas si mal que ça. Ouais, il y a bien quelques domaines où je ne suis pas au point. Hein. Ouais, c'est vrai, j'oublie mes rendez-vous, je ne suis pas très précis, je ne suis pas très organisé. Mais quand même, de notre côté, il y a quand même des choses que je fais bien. Quoi. Donc finalement, Seigneur, tu fais une petite une côte mat taillée entre les deux, là, et puis ça fait un petit équilibre. Quoi. Dieu dit, non, tu es largement en dessous de ce que je veux. Je veux pas que notre relation soit entre un Dieu parfait et saint et puis un gars pas trop trop mal, pas trop pourri. Non. On va se rencontrer sur un pied d'égalité. Si, parce que moi je vais déclarer que tu es juste. C'est-à-dire conforme à mes standards. C'est ça le sens étymologique du mot justifié dans le grec. Conforme aux standards de la société de Dieu. Avec propre. Mais pour ça, pour que je puisse le vivre, il faut comprendre le point de départ. Alors je voudrais vous lire un passage de l'évangile dans Luc 7. C'est pas une parabole, c'est une histoire vraie qui s'est passée quand Jésus était sur terre. Luc 7, 36. Un homme religieux invita Jésus à manger et Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle tint derrière lui à ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, cet homme religieux qui avait invité Jésus se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. » Que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Je suppose celui auquel il aura remis la plus grosse dette. »« Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Puis se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. On connaît cette histoire. Hein. Est-ce que cette femme était plus pécheresse que cet homme religieux qui recevait Jésus? Pas du tout. Simplement, elle savait qu'elle l'était. Ça se voyait, c'était notoire. Cet homme-là était respectable, hein. Sa pelouse était tondue, sa barrière était repeinte, il sortait pas son linge le dimanche, il soupait bien à 18h30, il payait ses impôts à temps, il disait bonjour aux voisins, il mettait pas ses doigts dans son nez, il mettait pas les coudes sur la table, il faisait tout comme il faut. Et donc, sa reconnaissance pour le pardon de ses péchés, ben, elle était ce qu'elle était. Ouais, j'avais une petite dette, Dieu l'a payée, hein. Mais quand même, nous autres, dans notre pays si propre et si beau, on a quand même moins besoin du pardon de Dieu que ces sales païens pourris qui mangent leurs enfants et qui ont 15 femmes et qui tripent leurs voisins et qui se livrent à des choses horribles. Et Jésus dit, celui à qui on a peu pardonné a peu aimé. Souvent, on se demande pourquoi on est si tiède dans nos vies avec Dieu. Ben, y a plein de raisons, hein. Mais une grande raison, je pense, elle est là. J'ai tellement minimisé l'œuvre de Christ que, ouais, il m'a donné un coup de main, quoi. En fait, même sans lui, j'aurais quand même bien réussi ma vie, hein. Parce que c'est quand même par notre travail qu'on y arrive. C'est notre discipline, c'est notre honnêteté, c'est nos valeurs, c'est nous, hein. C'est notre intelligence, notre créativité. C'est pas vrai. Tout ce qu'on a, d'abord, c'est Dieu qui nous l'a donné. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas né en Afghanistan et que je suis né ici ou en France ou... Je n'en sais rien, hein. C'est pas parce que j'étais meilleur. Et puis, pourquoi je suis né dans cette famille et pas dans une autre et pourquoi... J'ai rien mérité. Tout ce que j'ai, c'est un cadeau de Dieu. Et malgré ça, je suis aussi pourri qu'absolument n'importe qui. Il y a un livre très intéressant sur ce sujet, c'est pas directement un livre de théologie, mais La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, hein, où il raconte la biographie d'Adolf Hitler, et puis il imagine ce qui se serait passé si au début de sa vie, parce que vous ne savez peut-être pas, mais Adolf Hitler voulait être peintre, hein, et il a passé deux fois le concours des Beaux-Arts à Vienne, et deux fois à Vienne, pas Vienne, des formations locales, et il a été recalé deux fois. Et dans ce livre, il imagine ce qui se serait passé si, ben, par erreur, il a été admis. Et puis, il devient un peintre. Et puis, il fait des progrès. Et puis, etc., etc., quoi. Et le but de ce livre, c'est de montrer que dans chacun de nous, il y a le potentiel d'être Adolf Hitler. Ou d'être autre chose. Bien sûr, on est responsable de nos choix, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si la situation est là, je peux être celui qui tue le voisin, qui frappe l'autre, qui le vole. Je ne suis pas meilleur. J'ai eu le privilège de naître dans une famille équilibrée, d'avoir une éducation correcte, d'être dans ça. Mais j'aurais pu naître ailleurs, avec une autre famille, dans un autre pays. Et la Bible dit que nous sommes tous faits de la même pâte. Tous pareils. Si je ne comprends pas ça, ben, je suis exactement dans le même principe que ce que dénonçait Luther. Je m'accorde des indulgences. Bien sûr, on ne le formule pas comme ce pharisien qui dit « Seigneur, je te loue de ce que je suis meilleur que le reste des hommes ». On ne le dit pas comme ça. On ne le pense pas comme ça. On est trop bien éduqué. Mais la réalité, elle est là. Je ne considère pas les choses comme Dieu les voit. Et en même temps, heureusement, parce que si je me voyais comme Dieu me voit sans le filtre de l'œuvre de Christ, je serais détruit. J'y survivrais pas. Et c'est pour ça que on doit comprendre ça, ce qui a l'air d'être quand même assez négatif comme message, pour comprendre pourquoi l'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et rappelez-vous, quand Jésus a commencé d'annoncer la bonne nouvelle, c'était dans un peuple qui culturellement faisait tous leurs efforts pour être pur. La vie d'un enfant juif, à partir du moment où il était né et qu'il commençait à comprendre quelque chose, c'était comment être pur. Et on se lave les mains, et on fait ça, et les bouclettes ici, et les petits papiers là, et le truc là, et là. Et attention, il n'y a pas une huile, il ne faut pas toucher une femme parce que peut-être elle a ses règles, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler avec les chiens, il ne faut pas parler avec les étrangers. Toute leur vie, leur préoccupation première, avant même de manger, dormir ou boire, c'était devenir et rester pur. Et puis Jésus parle à ces gens et leur dit, vous êtes des races de vipères, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des tas d'ossements, ce qui était les choses les plus impures dans leur culture. Hein. C'était très violent, très fort. Pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle, il fallait que ces gens-là comprennent, hé les gars, vous n'y arriverez pas. arrêtez de faire semblant et de vous penser meilleur parce que ah oui, mais moi, j'ai jamais commis d'adultère. Ouais, tu passes ton temps derrière tes volets à regarder la voisine. Ah, mais je l'ai pas fait. C'est pareil. Mais moi, j'ai jamais tué personne. Ouais, puis tu t'en vas du temple en pensant qu'elle a abruti celui-là, là-bas. C'est pareil. Dans un autre contexte, avec d'autres environnements, au lieu de penser que c'est un abruti, tu lui aurais envoyé une rafale de Kalachnikov dans la figure, et tu te serais pris en photo à côté, et tu aurais été tout content. Pareil. Ça nous choque quand on voit ces images, hein. Mais ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, si on avait vécu dans ce contexte-là. Et la bonne nouvelle, c'est que pour chaque être humain, Christ est venu régler ça différemment, en disant, écoutez, faites-moi confiance, moi je paye l'ardoise, et maintenant non seulement ça, mais ce qui était ma justice à moi, je vous l'offre. Vous avez pu à le fabriquer, vous avez pu à le faire, je vous l'offre. Si on réalise ça et que nos cœurs ne sont pas bouleversés par la reconnaissance, c'est pas possible. Donc, lorsque mon cœur reste froid en lisant ces choses-là, ben, la seule raison, c'est que je ne le comprends pas. Oui, je le comprends intellectuellement, mais je ne le comprends pas. Et j'ai besoin d'aller à Dieu pour lui dire, Seigneur, même pour ça, j'ai besoin de toi. Je ne suis même pas capable naturellement d'être reconnaissant. J'y arrive pas. J'en ai rien à faire. Du moment que moi ça va, et puis on est comme ça. Mais je dois au moins le savoir, au moins le reconnaître, pour voir toute la valeur de ce Dieu qui dit, mais je sais que vous ne pouvez pas y arriver, c'est pour ça que je ne vous demande même pas, et moi j'ai payé pour vous, et maintenant je vous déclare accepté, conforme, juste, parfait. Mais en même temps, nous savons très bien d'où ça vient. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, je vous le lis, hein. Dans 1 Corinthiens 4, 3, on l'accusait de plein de choses qu'il avait fait ou pas fait, etc. Et puis, Paul répond ceci, 1 Corinthiens 4, 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une autorité humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que dit Paul, là? Il dit, écoutez, ce que vous pensez de moi, qu'est-ce que j'y fasse? C'est ce que vous pensez de moi, je m'en moque. Hein. Ce que je pense de moi, c'est bien, mais ça ne sert à rien, parce que j'ai beau penser que je suis innocent ou pas, de toute façon, ça ne change pas la réalité. Et ce n'est pas parce que je pense que j'ai raison que je suis justifié. Celui qui me justifie, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je peux avancer dans la vie sans passer mon temps à demander « je suis assez bien, je suis bon, je suis pas bon » ou paraître complètement déstabilisé parce que d'un coup, je viens de découvrir que mon cœur était mauvais. Ben dis donc, ça fait du temps. Et c'est vrai que selon notre éducation, notre culture, je dirais dans un contexte ici, hein, où quand même il y a un arrière-plan chrétien très fort, il y a une culture relativement morale, il y a une éthique qui est assez solide, on a du mal à accepter ça. Mais pourtant, on doit le voir. Évidemment que j'ai pas fait des tas de choses qui sont horribles, mais il y a largement le potentiel en moi pour les faire. Il faut juste que vous soyez dans la bonne situation au bon moment, je vous promets que ça va sortir. Et je crois que si on a un peu plus de 12 ans, donc on est tous dans la catégorie 12 ans et plus, hein, on a déjà eu suffisamment d'occasions de s'apercevoir de ce qu'il y avait dans notre cœur. Comment tout d'un coup, on peut avoir de l'amertume, de la haine pour quelqu'un, et effectivement, nous on le ferait pas, mais si un tueur à gages voulait supprimer la personne pour nous, on pleurerait pas, quoi. Hein? Et puis, et sur la convoitise, et sur tout le reste, le mensonge, etc. Mais, lorsque j'ai compris que j'accepte ce que Christ a fait, et puis je suis déclaré pardonné, bien, et justifié, Dieu me dit, bien. On va s'asseoir ensemble. Je veux que vous soyez mon ami. Mais on doit avoir le tout pour que ça ait un sens. Parce que si on est juste avec Dieu est mon copain, c'est super, ben oui, c'est bien que Dieu soit notre ami. Mais je dois comprendre pourquoi c'est possible. Sinon, j'ai pas de reconnaissance. J'ai pas d'amour qui vient à moi parce qu'on m'a tellement peu pardonné. C'était quand même une tellement bonne affaire que Dieu a fait avec moi. Juste, il m'excuse un petit peu. Non, non, c'est pas ça. Et la compréhension de cette vérité fondamentale, c'est le cœur du christianisme, ça doit devenir, ça va être la source de notre motivation. Je fais pas les choses pour plaire à Dieu. Je fais ce que je fais parce que la reconnaissance vient dans mon cœur, parce que je comprends ce qu'il a fait pour moi. C'est très différent. C'est pas pour que Dieu soit content que je vais partager ce que je vis avec d'autres. C'est pas pour que Dieu soit content que, au lieu d'aller à la pêche, je viens au culte le dimanche matin, ou qu'au lieu de regarder le journal du matin, je lis ma Bible. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à Dieu? Je le fais parce que c'est bien pour moi. Je le fais parce que c'est utile pour les autres. Je le fais parce que Dieu voudrait que je le fasse, mais pas pour qu'il me déclare un bon chrétien, pour qu'il me déclare juste, pour qu'il me déclare meilleur. Ça, c'est fait à cause de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est quelque chose, je crois, qu'on a besoin de redécouvrir ou de découvrir, d'approfondir, de creuser. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on peut juste comprendre avec notre intelligence naturelle. Et on a besoin de prendre du temps, il n'y a pas de raccourci, se mettre devant Dieu et puis lui dire... J'ai besoin que tu touches mon cœur avec ces choses-là parce que je suis un enfant ingrat. Puis on le sait tous, je veux dire, au fur et à mesure des générations. Et moi, je me rappelle quand chaque Noël, mon père me disait, eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que moi, je me rappelle mes Noëls quand j'avais une orange, ben, j'étais content. Et souvent, j'avais une paire de chaussettes et j'étais super reconnaissant. Et vous, regardez-moi, la chambre est pleine de jouets et puis vous n'êtes pas reconnaissant. Puis moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. Puis maintenant, je vois mes enfants. Puis je dis, mais c'est pas croyable. Moi, j'avais 10 fois moins de jouets que vous, et j'étais content quand même. Et puis vous, regardez tout ce que vous avez. Et puis, bon, j'imagine que ça continue comme ça tout le temps, hein, et que ça, c'était comme ça avant de mes parents. Hein. Mais c'est toujours ce principe-là, quoi. Naturellement, notre cœur est ingrat. Et plus on pense qu'on mérite, plus et plus on a, plus on pense qu'on le mérite, et puis etc., etc. Et Dieu nous dit non. Venez voir et je vais d'abord vous montrer qui vous êtes. Et c'est pour ça que c'est le ministère. Vous savez quand ce verset qui dit le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le premier travail que le Saint-Esprit doit faire dans nos cœurs, c'est d'éclairer, pas trop, parce que sinon on meurt, mais un petit peu, pour qu'on comprenne qui je suis réellement. Moi, je me rappelle une des premières fois où j'ai réalisé que j'étais vraiment mauvais. C'était un choc terrible. J'ai toujours été un gentil petit garçon, je ne faisais pas de bêtises, j'obéissais à peu près. À ce qui était visible, je me tenais bien, quoi. Hein. Donc, voilà, c'était souvent cité un exemple. Ah ouais, ben lui, au moins, Et je le croyais. Le jour où j'ai découvert au fond de moi qui ce qu'il y avait, j'étais effrayé. Pendant une semaine, ça m'a traumatisé. Moi, je me suis un peu habitué. Non, je suis franchement mauvais, méchant, égoïste, pourri, corrompu. Je suis capable de tout. Juste, Dieu m'a gardé par des situations favorables, mais il n'y a rien qui est impossible. C'est pour ça que je ne suis pas surpris quand tout d'un coup on apprend, telle personne, vous en rendez compte, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Non, moi, je suis surpris quand ça ne se passe pas. C'est là qu'est le miracle. Parce qu'on est tous comme ça. Mais lorsque je comprends ça, alors il y a la reconnaissance qui vient dans mon cœur et je dis à Dieu, comment c'est possible que tu aies pardonné quelqu'un comme moi? Et en plus tu me déclares juste, c'est extraordinaire. Et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le dire aux autres. Et il y en a, ils ne peuvent même pas attendre, ils sortent de suite pour aller le dire aux autres. Mais c'est bien comme ça. Tellement qu'ils ont été touchés. Alors, on va simplement demander à Dieu de faire ce travail dans nos cœurs et puis de nous aider avec tout ça. Seigneur, merci parce que tu n'es pas indulgent avec notre péché. Tu ne veux pas que nous l'excusions, mais tu as une autre solution. Tu nous as pardonné, nous l'avons reçu par la foi, et tu nous as déclaré juste. Aide-nous à ce que ces mots prennent du sens dans nos vies. Je ne sais pas comment, Seigneur, mais par ton esprit en nous, viens toucher profondément nos cœurs, viens nous bouleverser en nous montrant ce que nous sommes sans toi, mais aussi en nous montrant ce que tu penses de nous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Viens faire ce travail vraiment profondément dans nos vies, que ce soit la source d'une nouvelle motivation, d'un point de départ nouveau pour nos vies, retrouver toute la valeur, la grandeur, la beauté de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen.